Radio Okapi. Le journal présenté par Pascal Massirika.
À la une de l'actualité, découverte de nouveaux corps sans vie dans les décombres après la catastrophe naturelle de Kalehe au sud Kivu, les sinistrés font face actuellement à plusieurs défis, notamment leur relocalisation, le manque d'eau potable et la réhabilitation de la route nationale numéro 2. Paralysie des activités ce lundi à Boma, au Congo central, suite à l'appel d'une journée ville morte. La société civile locale réclame la relance des activités du port de la ville et l'organisation et l'obligation des contrôles techniques des véhicules sur ces sites. Notre invité, c'est le procureur général près la Cour de cassation. Firmin Vombe Mambou revient d'une mission d'inspection à Mbujimayi, chef-lieu de la province et du Kasaï oriental, où il a visité la prison centrale et libéré en même temps des détenus poursuivis pour des fins bénins. Madame, messieurs, bonsoir. Ouvrons ce journal par une page santé. Au sud Kivu, la situation reste actuellement préoccupante pour les sinistrés de la catastrophe de Kalehe. Des nouveaux corps sans vie sont sortis des décombres. Pendant ces temps, les survivants font face à plusieurs défis. Explication à Bukavu dans cette correspondance d'Emmanuel Elmejo Kabidi.
La situation reste très préoccupante à Bushushu et Nyamukubi dans le territoire de Kalehe. Ce lundi 15 mai 2023, l'on signale 5 nouveaux corps sans vie sortis des décombres à Nyamukubi et les recherches se poursuivent. Plusieurs organisations de la communauté onusienne sont présentes sur terrain. OCHA, ICR, UNICEF, OMS et d'autres encore travaillent jour et nuit en faveur des survivants et d'autres questions de santé ainsi que des abris provisoires. Le principal défi aujourd'hui, c'est la route nationale RN2 qui traverse le territoire de Kalehe entre Bukavu et Goma, un tronçon totalement délabré. Alors que si cette route est ouverte à la circulation, les personnes peuvent faire mouvement vers d'autres localités et se trouver des refuges dans des familles d'accueil, mais aussi et surtout permettre le mouvement des humanitaires qui peuvent secourir les sinistrés. Autre défi, c'est la délocalisation des sinistrés pour ne pas les exposer à l'avenir. Pendant qu'ils rôdent tout autour du lieu des drames, c'est le défi sanitaire qui se pose. Il y a même risque de l'apparition des maladies de masse si l'on y prend garde. Emmanuel Elamijo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Revenons dans la capitale où certains habitants de Kinshasa disent souffrir de la toux, des maux de tête, de fièvre et des courbatures. Docteur Muriel Lokolongo, infectiologue et interniste aux cliniques universitaires de Kinshasa, parle d'une simple grippe saisonnière. Mais elle fait remarquer qu'il y a d'autres maladies qui peuvent présenter un syndrome grippal. Et pour se mettre à l'abri du danger, elle conseille de consulter. Docteur Muriel Lokolongo a été jointe par Sam Badimouke.
Pour les personnes malades, le conseil, c'est des mesures barrières, un repos, vous avez mal à la tête, vous toussez, vous faites de la fièvre, on peut donner le traitement symptomatique pour booster un peu l'immunité. On peut donner des vitamines comme la vitamine C, on la trouve dans plusieurs aliments, dans les fruits surtout, les citrons, les oranges, les ananas, prendre des boissons chaudes, éviter la poussière. Et pour les personnes qui ne sont pas encore malades, comme bientôt nous entrons dans la saison sèche où on note souvent des maladies des voies respiratoires à cause de la poussière. Il faut humidifier nos maisons. Ouais, nos vieilles mamans, avant même de balayer la parcelle, quand il y a beaucoup de poussière, ils versent un peu de l'eau pour humidifier un peu l'atmosphère. Ce sont des gestes qu'on peut faire. Il faut bien aérer nos maisons, surtout si vous avez des enfants qui ont de l'asthme. Ce sont vraiment des moments propices où les enfants peuvent faire des crises. Éviter les boissons froides, surtout les enfants, les laver avec de l'eau tiède. Prendre aussi des aliments riche en vitamine C, comme les fruits.
Dans un autre chapitre, au Congo central, les activités ont été paralysées ce lundi matin à Boma suite à l'appel à une journée ville morte lancée par la société civile locale. Cette structure citoyenne réclame la relance des activités du port de Boma et l'obligation de contrôle technique des véhicules sur ces sites. Amatadi Nana Plurich Mambou.
Les rues de la ville portuaire de Boma n'ont pas connu ce lundi leur influence d'habitude. Des élèves n'ont pas fait les déplacements de leurs écoles. La chef de la sous-division provinciale de l'éducation de Boma qui l'affirme espère que la situation sera décantée dès demain mardi. Martine Boya.
Les quelques élèves qu'on avait trouvés sont rentrés et même les enseignants. C'est le début des interrogations, maman. Vraiment, c'est le souhait que les enfants arrivent à l'école demain.
Pour la coordination de la société civile, ce mouvement des villes mortes vise à réclamer la relance des activités au port de Boma, considéré comme poumon économique de cette entité. Selon son coordonnateur, toutes les dispositions allant dans le sens de relancer les activités portuaires que les autorités tant nationales que provinciales prennent souffrent d'application. Apollinaire Sokangimbi.
La ville morte à Boma est totale. Donc nous avons besoin de la justice et d'un traitement égal entre toutes les villes de la province du Congo central. Le dossier du port a trop duré et nous en avons mal.
Hormis les écoles, plusieurs autres services, étatiques et para-étatiques, n'ont pas ouvert leurs portes ce lundi dans ces coins du pays. Parmi lesquels, les universités, les grands marchés et autres, en dépit du communiqué du maire, invitant la population à vaquer librement à ses occupations. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Dans l'Équateur, les habitants de la ville de Gbadolité déplorent à ce moment la hausse des prix des vivres et des produits manufacturés sous les marchés depuis plus d'une semaine. À la base de cette situation, le mauvais état de la route nationale numéro 24 qui va de Businga à Gbadolité, principale voie d'approvisionnement. En Mbandaka, Paul Richard Malengela.
Plusieurs ménagères affirment que la vie devient de plus en plus intenable à Gbadolité. La situation est consécutive à la hausse des prix des produits de première nécessité. Le cas du sac de farine de froment de 50 kg, il est passé de 150 000 à 250 000 francs congolais. Le sac de sucre passe de 130 000 à 175 000 francs congolais. Une bouteille de boisson gazeuse qui se vendait à 2 000 revient actuellement à 4 000 francs congolais. Les dépositaires et autres revendeurs justifient cette hausse par la facture élevée des transporteurs. Ceux-ci tiennent à compenser les multiples pannes et difficultés que connaissent leurs camions dues au délabrement très avancé de la route Businga-Gbadolité. Au lieu de 24 heures, certains parcours se tronçonnent de 135 km pendant 4 voire 5 jours. En revanche, sur les marchés locaux, les acheteurs se bousculent aussi pour les produits vivriers devenus rares. Un morceau de poisson qui coûtait 5 000 s'achète désormais à 10 voire 12 000 francs congolais, nous a expliqué une ménagère jointe au téléphone. Le sac de cossette de manioc qui coûtait 15 000 francs congolais se négocie aujourd'hui à 35 000. Pour cause, signale notre source, dans des sites de production, les paysans ont abandonné leurs champs. Ils se ruent notamment sur les activités de fonds social qui leur procurent immédiatement plus d'argent que la vente de leurs produits. Bandaka, Paul Chamalingue, la Radio Okapi.
Et puis, suppression momentanée de la taxe des vélos transportant des marchandises et la taxe d'étalage des produits maraîchers vendus à Mweneditu dans la province de la Lomami. Cette décision du maire de la ville a été annoncée à la paroisse catholique de Mweneditu lors de la messe d'hier. Cependant, chaque pédaleur paye à l'entrée de la ville 5 000 francs congolais, tandis que les vendeuses de légumes paieront désormais 200 francs congolais par jour. Gérard Chibanda, maire de Mbujimayi, parle des motivations de ces décisions. On l'écoute.
Il s'agit premièrement de toutes les mamans qui vendent les légumes sur toute la ville de Mweneditu. Deuxièmement, aux pédaleurs ou motocyclistes appelés communément moustrongueurs qui amènent les vivres de première nécessité sur la ville tels que les maïs, les maniocs, les arachides, les haricots, les poissons. Ils viennent du territoire de Kanyama, de Lwilu, du territoire de Kamiji, voire même de certains villages du Lualaba et du Kasaï central. Par jour ici chez nous, nous pouvons compter plus ou moins 800 à 1000 vélos qui entrent sur la ville, qui amènent les vivres. Ces jeunes gens vous font des kilomètres et des kilomètres, des longues distances à vélo. Ils souffrent beaucoup. Il y a ceux qui viennent au-delà des 500 km à vélo, imaginez-vous. Et l'objectif, c'est de chercher à stabiliser, tant soit peu, les prix sur les marchés. Les taxes sont à présenter au sortir de la ville. Après avoir vendu des articles de consommation qu'ils nous amènent, et attention, ces décisions n'excluent pas les contrôles physiques pour connaître qui entre sur la ville. Ça, c'est très nécessaire pour la sécurisation de la ville.
Dans l'actualité, ce soir, notez aussi qu'il n'y a pas eu fermeture du lac Tanganyika ce lundi comme initialement prévu par les pays riverains dont la RDC. Le gouverneur intérimaire du Tanganyika affirme que son gouvernement provincial n'a pas encore pris des mesures d'accompagnement quant à ce. Pour en parler, retrouvons à Kalemie Paul Emunanga.
Le gouverneur intérimaire du Tanganyika fait savoir que parmi ses mesures d'accompagnement, il faut outiller la force navale pour la surveillance du lac et empêcher toute pêche clandestine. Dieudonné Kasaka souligne que le gouvernement provincial avait prévu d'alimenter la ville de Kalemi en produits surgelés comme des poulets ou des chinchards pour pallier au manque de poissons du lac Tanganyika. Cependant, souligne-t-il, la ville de Kalemi n'a pas de chambre froide, mais jusqu'à présent, aucune mesure n'est prise. En outre, le gouverneur intérimaire du Tanganyika précise que seul la gouverneure peut signer un arrêté provincial portant fermeture du lac Tanganyika. Étant intérimaire, il ne peut pas le faire. Pour le président provincial des pêcheurs du Tanganyika, les membres ne sont pas prêts à respecter cette mesure. Pierre Kalonda Sadiki.
On ne peut pas fermer, nous continuons à pêcher. Puisque c'est trop tôt, nous sommes des pêcheurs. C'est pas en se réveillant le matin, fermer le lac, trois mois, on ne peut pas pêcher, non. Nous sommes des responsables et nous payons les taxes. Il faut signaler avant et créer des mesures d'accompagnement.
Signalons que les pêcheurs ont projeté une marche ce lundi à Kalemi pour protester contre la mesure de la fermeture du lac Tanganyika. Kalemi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Autre nouvelle en plus bref, lancement ce lundi à Beni au Nord Kivu des 5 jours de ville morte pour protester contre la montée de l'insécurité dans cette ville du Nord Kivu. La société civile et les mouvements citoyens de la zone mettent les autorités devant leurs responsabilités. Les élèves de Butembo demandent à l'inspection de la province éducationnelle Nord Kivu 2 d'honorer au plus vite les factures de soins de santé de leurs collègues qui se sont évanouis le 12 mai dernier pendant les préliminaires de l'examen d'État. Il s'agit des finalistes et du secondaire de l'option nutrition qui sont soignés actuellement dans diverses formations médicales de la place. Reportage à Butembo de Sadiki Aboubakar.
Une lettre datée de ce lundi 15 mai a été adressée pour cette fin par le comité d'élèves à l'IPP, inspecteur principal provincial, autorité chargée de l'inspection de l'enseignement dans la division de l'EPST Nord Kivu 2. Ces comités d'élèves affirment que cette charge est une dépense de plus pour leurs parents au regard du fait que ces élèves, supposés victimes d'intoxication lors des examens pratiques, étaient sous la pleine responsabilité des autorités scolaires. Après avoir goûté à une recette préparée pour le compte de la pratique des nutritions, de nombreux élèves se sont évanouis. Ils ont été acheminés à l'hôpital où ils ont repris connaissance quelques heures plus tard, décrit la lettre. Le docteur Michel Mukululi est médecin directeur du centre hospitalier de Mutiri. Ici, 20 de ses enfants sont pris en charge. Mais de quoi souffrent-ils concrètement, docteur?
Nous pensons qu'ils ont été exposés à une substance chimique. On a juste utilisé le protocole d'intoxication et tous se sont en train d'évoluer bien.
Contacté à ce sujet, Ale Lubange, inspecteur principal provincial de l'EPST Nord Kivu 2, dit suivre de près la situation de ses élèves. Il promet de rencontrer leurs parents pour une solution d'ensemble, même s'il n'a pas encore reçu la lettre du comité des élèves, indique-t-il. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Et dans la Tchopo, la première journée des épreuves pratiques des finalistes et du secondaire aura été un véritable raté, alors que de nombreux élèves finalistes et du secondaire avaient déjà regagné leur domicile pour n'avoir pas été reçus dans les centres d'examen par les inspecteurs. Un compromis a été trouvé entre eux et les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ces épreuves seront organisées. Les inspecteurs protestent contre la modicité de la prime qu'ils touchent actuellement. Radio Okapi Kisangani, Jacques Mkonkole.
Ce lundi matin, les inspecteurs de l'EPST ont mis leurs menaces à exécution. Pendant que certains élèves continuaient encore à espérer, d'autres ont carrément regagné leur domicile dans une grande déception. Témoignage.
On nous a dit seulement qu'aujourd'hui, pas question de passer les examens parce qu'on ne paie pas les inspecteurs.
Ce sentiment de déception est pratiquement partagé par certains chefs d'établissement, tel est le cas de Boni Elanga.
Nous sommes dessus, nous sommes là depuis 8 heures.
Ce sont les enfants qui sont maintenant victimes et les parents à tout moment qui nous embrouillent. Comment on a tout payé, mais en revanche, les enfants seront sacrifiés comme ça.
Afin de tenter de dénouer cette crise, un face-à-face a eu lieu entre le comité provincial de l'EPST, le ministre provincial de tutelle, ainsi que le syndicat des inspecteurs. Un compromis a été trouvé, affirme le président de ce syndicat, Martin Alali Lokonda.
Avant l'évaluation de la session ordinaire, il fera participer participer notre représentation syndicale dans l'élaboration ou soit dans la discussion de l'application de cette nouvelle prime.
Georges Lomali Samonde, ministre des tutelles, dit avoir instruit le comité provincial de l'EPST pour la tenue imminente de cette réunion relative à l'examen du budget de la session ordinaire de l'Exeta 2023. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Mali, les autorités au pouvoir appellent le corps électoral à un scrutin référendaire sur l'adoption d'une nouvelle constitution du pays le 18 juin prochain. Ce sera le premier scrutin organisé par les militaires depuis le double coup d'État qu'ils ont perpétré en 2020 et en 2021. Il représente en définitive une étape cruciale dans le processus de retour du pouvoir aux civils auquel les hommes forts de Bamako se sont engagés pour mars 2024 après les élections générales de février de la même année. Le politologue malien Ibrahima Arane Diallo parle plutôt d'une étape importante au retour à l'ordre constitutionnel. Et puis le président ukrainien poursuit sa tournée européenne. Après Rome, Berlin et Paris, Volodymyr Zelensky s'est rendu ce lundi matin au Royaume-Uni pour y rencontrer le premier ministre Rishi Sunak. Londres a en effet annoncé de nouveaux renforts militaires à destination de l'Ukraine, constitués notamment des centaines de missiles longue portée et des centaines de drones d'attaque. Ce soutien militaire intervient à quelques jours d'une contre-offensive attendue de la part de l'Ukraine vers la Russie.
L'invité.
Notre invité, c'est le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde Mambou, revient d'une mission d'inspection au Kasaï oriental où il a visité la prison centrale de Mbujimayi et libéré à l'occasion des détenus poursuivis pour des faits bénins. Il s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Firmin Mvonde Mambou. Vous venez de clôturer votre mission en Mbujimayi au Kasaï oriental. Quel a été le but de la mission?
Bonjour, madame. Je suis arrivé il y a 4 jours en mission de service. J'ai été précédé par 2 hauts magistrats qui ont procédé à un travail d'inspection réglementaire, donc de fond en comble du parquet général près de la Cour d'appel de Mbujimayi. Inspecter un parquet général près de la Cour d'appel, c'est dans nos attributions. Nous sommes le parquet général, l'unique parquet général près de la Cour de cassation. Nous avons sous notre direction la surveillance de 27 parquets généraux près des cours d'appel. Ici, Mbujimayi sera le 3e parquet général à être inspecté dans mon mandat ici. L'inspection consiste à voir au sein de cet office du parquet et du ressort ce qu'il faut entendre par bonne administration de la justice par le parquet. Les messages sont venus, c'était pour, ou plutôt tous les dossiers qui sont au parquet général près de la cour d'appel de Mbujimayi, passer en revue chaque dossier. Pourquoi il est encore en procédure, quelles orientations il faut donner pour qu'une solution soit rapidement trouvée, et s'il faut classer un dossier, on les classe, s'il faut que le prévenu qui est dans un dossier soit libéré, il est libéré, s'il faut que le dossier soit rapidement envoyé à fixation, il est. En fait, c'est pour voir si l'exercice de l'action publique, qui est notre partage, s'effectue normalement. Donc, le travail a été fait. Je crois, on m'a parlé de plus de 2500 dossiers que les deux magistrats ont abattu comme travail. Et j'estime qu'à ce niveau-là, vous avez une idée de l'inspection que le parquet général près de la Cour de cassation assure sur les parquets inférieurs. Je voudrais poursuivre en disant qu'au terme de l'inspection, j'ai eu à animer une journée porte ouverte où j'étais en présence des justiciables et qui m'ont exprimé leur doléance, leurs préoccupations. Et pour ceux qui étaient, nous y avons accordé la plus grande diligence dans le traitement des préoccupations qui s'exprimaient. Des solutions idoines, ponctuelles ont été trouvées. Nous avons eu à travailler hier dimanche pour le suivi de d'autres questions, d'autres procédures qui n'ont pas trouvé de solutions science tenantes.
Quelles sont vos impressions après avoir visité la prison centrale de Mbujimayi?
La prison centrale de Mbujimayi souffre de 2 maux. Essentiellement, la surpopulation carcérale, qui est le mal de toutes les prisons de la République. Cela se comprend facilement. L'État possède des prisons construites à des dizaines d'années, la population a augmenté, la criminalité, et naturellement, en Mbujimayi, sur 150 prévenus prévus pour cette prison, il y en a, au jour de ma visite, il y en a été dénombré 440, soit les triples du nombre prévu. Nous avons procédé à la libération des prévenus dont les faits nous semblaient soit bénins. Le deuxième couac c'est qu'à la prison de Mujimaï, les enfants sont mêlés aux prévenus majeurs. Ça, absolument, il faut que nous y veillions le plus rapidement possible. Mais au-delà de ça, j'étais content de savoir que les prévenus ne meurent plus à la prison de Mujimaï. Moi, je suis passé ici pendant 4 ans que j'ai été, il y a eu vraiment des morts qui se succédaient. Aujourd'hui, pratiquement une année toute entière, on n'a même pas de nombre d'un seul prévenu qui soit décédé à la prison. Ça, c'est bien. J'ai eu à rencontrer les prisonniers, à échanger avec eux. Ils mangent. Que l'État assume ses prérogatives régaliennes. Ils ne sont pas des rejetés de la société. Et naturellement aussi, la prison est très petite. Vous savez, quand on envoie quelqu'un en prison, il faut qu'on puisse prévoir des mécanismes de resocialisation. La resocialisation, c'est dans les mesures d'amendement, qui sont par exemple les champs, dans les travaux champêtres, les ateliers de couture, de maçonnerie, de menuiserie. Et ça, l'espace est tellement exigu pour la prison de Mujima qu'il ne sera pas possible qu'on puisse continuer à cet endroit-là. Voilà pourquoi je plaide pour sa délocalisation à un endroit où on aurait beaucoup plus d'espace pour que non seulement que la population carcérale convienne dans les cellules, mais qu'aussi qu'on prévoit des travaux de resocialisation pour que pendant les séjours carcérales, on puisse arriver à amender les prisonniers.
Au cours de la journée porte ouverte, les justiciables ont parlé et vous avez vous-même vu autant de dossiers qui traînent sur les tables de magistrats. Comment comptez-vous réparer l'appareil judiciaire?
Madame, je l'ai dit hier, la justice, on ne peut pas dire qu'elle se porte bien dans le pays. Je ne voudrais pas parler des conditions, des contraintes sociales des magistrats pour justifier quoi que ce soit. Mais je voudrais surtout dire que les justiciables sont tenus aussi de nous aider, nous qui pilotons, nous qui dirigeons les magistrats. L'erreur est humaine, tant qu'on ne veut pas la réparer, on est diabolique. Mais je crois que nous sommes là justement pour pousser les magistrats à faire du bon travail. Pour ainsi dire, il y a des dossiers qui traînent, on a boosté pour qu'ils soient traités. Et j'ai dit à tous ces magistrats que je donne une trêve. J'ai pas voulu sanctionner qui que ce soit parce que, avec le téléphone vert que j'ai mis à disposition des justiciables, nous apprenons des faits qui ne sont pas agréables, la sanction va tomber. Donc j'ai balancé aujourd'hui la carotte parce que j'ai donné des conseils, mais la prochaine fois c'est les bâtons.
Merci beaucoup, monsieur Fermet.
Madame, je vous remercie et voilà, au plaisir.
C'était l'invité de Radio Okapi, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde Mambou, était interviewé en Mbujima et par Esther Ndalafina. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Richard Junior Kamunga qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pele Kipelamondo.